Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
Parce qu'en immobilier, faut être à son affaire. Suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute.
Savoir et comprendre. L'actualité. Alexandre Morin-Villouellet.
Alex, bonjour.
C'est moi.
Bon, une femme apprend que son agresseur est en semi-liberté.
Oui, une histoire assez ahurissante, là, dont heureusement le dénouement là, est arrivé assez vite. Une victime de crimes sexuels violents qui a fini par dénoncer là, après des décennies d'abus dans un contexte conjugal, finit par dénoncer des années après son agresseur et est parvenue à le faire condamner. En 2021, l'homme a été reconnu coupable de viol, d'agression sexuelle notamment, condamné à une peine d'emprisonnement de 4 ans et 9 mois. Et c'est pas des petits gestes qui lui sont reprochés, là. On parle de sévices particulièrement violents, des claques, des coups de poing, des masturbations involontaires. Ça va jusqu'à des viols avec des outils là, sous la menace d'un couteau. Là. On parle vraiment de crimes sexuels très violents. Et donc, le criminel, qui est aujourd'hui âgé de 80 ans, lui, a été condamné donc à 4 ans et 9 mois de prison. Le problème, c'est qu'il a obtenu une semi-liberté l'été dernier parce qu'on juge son risque de récidive faible. Mais elle a appris, la dame, dont l'identité est protégée par une ordonnance de non-publication, par une intervenante de Service correctionnel Canada, que le monsieur en question, l'agresseur, allait être transféré dans sa région, sur la rive sud de Montréal, parce qu'il avait besoin de soins médicaux. Évidemment, la victime, elle, s'est retrouvée dans tous ses états. Elle, qui a un choc post-traumatique assez sévère, avait peur de sortir de chez elle, anxiété, insomnie, tout le tralala. Voulait tellement pas croiser son agresseur en dehors. Et au départ, elle demandait, l'appelait en demandant est-ce qu'il y ait un renversement de situation, est-ce qu'on déplace l'agresseur en question. Et on lui disait qu'il y avait rien à faire. Sauf que hier, il y a nos collègues du Journal de Montréal qui ont appelé au service correctionnel. On leur a dit qu'on pouvait pas commenter des dossiers spécifiques, mais hop! Ce matin, transféré, on a appelé la dame pour dire que finalement, l'agresseur allait être déplacé à Montréal, qu'il y avait une place soudainement qui s'était ouverte. Donc, la dame est soulagée, mais elle est quand même assez perplexe de voir que ça a pris des questionnements de journalistes pour faire bouger les choses rapidement, parce que sinon, elle a l'impression qu'on l'aurait laissé tomber pour cette fois-ci. Donc, c'est vraiment là un autre blâme qui semble aller au service correctionnel encore une fois.
Ouais, comme quoi les victimes passent après. Hein. Ouais. François Legault, il s'en va faire quoi du ski cet après-midi?
Mais là, ça commence maintenant, en fait, là, une rencontre entre les dirigeants du groupe Le Massif, le président du conseil d'administration, puis le président du groupe Le Massif, le Claude Choquette, qui sont reçus par le premier ministre pour une rencontre privée aujourd'hui. Évidemment, on commente jamais les rencontres privées du côté du cabinet Legault, sauf que l'automne dernier, M. Choquette lui avait affirmé au journal qu'il avait déposé une offre d'achat formelle pour acquérir le centre de ski du Mont-Saint-Anne en septembre dernier, offre qui était restée au final lettre morte. Et depuis ce temps-là, la station de ski Mont-Saint-Anne, elle, accumule là, les déboires. On se souviendra que le 10 décembre dernier, une télécabine qui s'est décrochée du remont de pente, on a dû fermer tout ça pour une inspection de la régie du bâtiment, fini par ouvrir seulement le 8 janvier dernier. Et donc, on peut spéculer quand même à savoir s'il nous rencontre aujourd'hui. Est-ce que M. Choquette, qui s'est jamais caché de vouloir demander un financement du provincial s'il veut acheter ski Mont-Saint-Anne, veuille parler de ça? On le sait pas, mais disons que ça plante dans l'air pas mal.
Bon. Et le maire Bruno Marchand se prononce sur le TGV.
Ouais, parce que si le fédéral, lui, a déjà dit qu'il préférait un train grande fréquence, un TGF, et non pas un TGV, les trains grande vitesse entre Toronto et Québec.
Il va pas plus vite, mais il passe plus souvent.
Va pas plus vite, mais passe plus souvent.
Ça, c'est M. Algabra, ça, le prix Nobel des transports.
Voilà, t'es pas d'accord toi non plus, je comprends que tu suis ton...
C'est insignifiant.
Tu suis M. Bruno Marchand, lui, qui souhaite plutôt que ce soit le train à grande vitesse là par rapport là surtout à l'annonce du géant Alstom qui a annoncé là, à la presse française en septembre dernier une nouvelle génération de TGV, des TGV M qui pourraient aller encore plus vite, sont en phase de test, mais pourraient être opérationnels dès l'an prochain déjà. Et donc, on a indiqué que pour Québec, Mais c'est beaucoup mieux d'avoir un accès plus rapide pour se rendre à Toronto plutôt qu'un train qui passe plus souvent. C'est pas qu'il y a des millions de gens qui veulent se rendre à Toronto, c'est plutôt quand tu veux t'y rendre. Mais plus c'est rapide, mieux c'est, hein, pour le voyagement. Donc, on va pousser de ce côté-là là vers Ottawa pour avoir gain de cause. Il semble-t-il que Jonathan Julien, le ministre québécois responsable de la capitale nationale, abonde dans le même sens que M. Marchand pour ce projet. Donc, on verra s'ils réussiront à obtenir gain de cause du côté du gouvernement fédéral.
On vient à New York, puis t'embarques les migrants du chemin Roxham en chemin.
Es-tu allé en Europe souvent, Benoît?
Oui.
Moi, là, chaque fois que je vais en Europe, les trains, là.
Fantastique.
Je comprends
qu'ils ont, partout, n'importe où.
Ils ont des siècles d'avance, là, sur les rails de chemin de fer, puis que c'est pas mal plus petit l'Europe que le Canada puis les États-Unis, mais c'est le rêve, hein, de pouvoir se promener comme
absolument.
Ça partout.
Là, ici, on a des escargots sur roues, via rail. Tu sais, tu veux aller Montréal-Vancouver, tu pars de Toronto, hein.
Mais ça prend combien de temps?
Alors, 8 jours. Mais via rail, il y a le siège social à Montréal, mais il n'y a pas de départ de Montréal pour aller à Vancouver. Tu veux faire le voyage à travers le Canada, tu peux pas.
Anne-Marie, ou ce qui est presque Anne-Marie. C'est ça la devise du Canada, je pense. D'un océan à presque l'autre, juste avant, on arrête à Toronto.
C'est ça. Tu prends le tourbus pour le reste. Des documents confidentiels retrouvés chez Mike Pence.
Oui, alors qu'il y a déjà une enquête qui est ouverte sur des documents confidentiels qui auraient été retrouvés à la fois chez M. Trump. On se souviendra, ça a pris une perquisition du FBI à cette résidence de Mar-a-Lago pour les récupérer. Mmh. Ensuite, on a découvert que Joe Biden en aurait également, qui date de lorsqu'il était vice-président de Barack Obama. Il ne fait pas garder des documents lui non plus dans sa maison. Et en ce moment, il y a des investigations qui sont là-dessus. Mais là, c'est au tour du vice-président, de l'ancien vice-président Mike Pence, d'avoir des documents qui sont retrouvés chez lui. Et semble-t-il que c'est son propre avocat. Il a mandaté lui-même son propre avocat dans la foulée de tout ça, de fouiller sa maison en disant...
Volontairement.
Va fouiller dans nos caisses. Il me reste à peu près 4 boîtes que j'ai encore de lorsque j'étais vice-président. Fouille là-dedans. Et semble-t-il donc qu'il aurait retrouvé là, certains documents classés confidentiels dans sa résidence de l'Indiana. On a fouillé également son bureau à Washington. Et donc, aujourd'hui, dans la journée, on devrait remettre ces documents-là au service des archives nationales. Là, semble-t-il que c'est déjà du côté du FBI une perquisition qui a été menée. Là, on est venu les récupérer après qu'ils aient appelé eux-mêmes. Tout ça malgré le fait que Mike Pence avait dit dans de multiples entrevues depuis ce qui s'était passé à Mar-a-Lago qu'il n'avait jamais ramené de documents. Là, il fait son propre examen de conscience, si on veut, et ça peut peut-être aussi venir, si on spécule, avant son annonce de se lancer lui-même pour la course présidentielle de 2024 pour les Républicains. Il est pressenti pour peut-être se lancer. Donc, est-ce qu'il a voulu montrer complètement patte blanche avant de se lancer dans la course contre son ancien président Donald Trump? Ça reste à voir, mais quand même, c'est un nouveau revirement de situation dans ces histoires de documents classifiés qui sont ramenés là, de plus en plus, semble-t-il, par les politiciens chez eux.
Et ça, c'est drôle, Fox News.
Ouais, Fox News et les M&M, j'en ai parlé un peu hier avec Mario, mais là, il y a les réactions de Tucker Carlson qui sont... déprimantes à voir ou agréables, peu importe de quel côté de la balance vous penchez, parce que tout ça a commencé là vers la fin de l'année dernière, alors que la maison mère de M&M, le Mars, a décidé de changer, là, d'amener des nouvelles additions à son équipe de mascottes. Hein, on se souviendra, depuis des années, il y a les petits M&M qui parlent, chacun nommé par une couleur. Au départ, on a enlevé les bottes sexy en cuir blanc que portait la M&M verte, hein, qui était la seule porte-parole féminine, auquel s'ajoutait une M&M brune, finalement. Ça avait crié au meurtre du côté de Fox News, semble-t-il, que Tucker Carlson, leur animateur vedette, là, était enragé de voir qu'on tentait d'enlever tout ce qui était sexy chez les porte-paroles comme ça. Ensuite, on a inclus un M&M mauve, M&M mauve pour symboliser la communauté LGBTQ. Et là, ça a enragé encore une fois la droite conservatrice américaine qui s'est dit qu'on politisait les pauvres M&M, que c'était pas leur job, ça, de faire ça. Benoît, mais finalement, M&M ont donné raison à Fox News. Ils ont décidé de suspendre de manière indéfinie leur porte-parole bonbon. C'est ce qu'ils l'ont dit. Et les remplace par la comédienne humoriste Maya Rudolph, qui va être la porte-parole de la marque M&M pour l'instant. Faut croire que ça a peut-être affecté leur vente pour qu'ils prennent des décisions comme ça.
Ouais.
C'est bizarre, mais Tucker Carlson s'en est réjoui à son émission hier, Benoît. Je l'ai écouté pour toi.
Y en a-tu mangé?
Oh non, il a dit que, en plus, la M&M mauve, selon lui, elle est obèse, elle représente l'obésité, donc le manque de santé. Il a dit que c'était une honte qu'une compagnie de bonbons aux États-Unis ait le culot d'avoir une porte-parole obèse.
C'est bon. Merci Alexandre pour ces nouvelles.
Salut.